Bonjour David Fuenquinos.
Bonjour.
Nous avons le plaisir de vous accueillir en avant-première de la parution jeudi de votre nouveau roman Vers la beauté chez Gallimard. Alors à propos de beauté, qu'est-ce qu'il incarne ou qu'est-ce qu'il symbolise le mieux à vos yeux, David Fuenquinos?
À mes yeux, je crois que c'est vraiment la langue française. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lis un livre où je peux être comme ça bouleversé ou attrapé par la sensualité d'une phrase, c'est ce qui me touche le plus.
Le goût des mots.
Le goût des mots.
Et leur esthétique.
Oui. Exactement.
Nous allons prendre le temps de parler de ce roman en compagnie de Bernard Lehu. Nous évoquerons également la langue française puisque cette journée de mardi lui est dédiée. Stéphane Bern, d'ailleurs, lui consacrera la soirée de France 2, nous dira Isabelle Morini-Bosque. Et je n'oublie pas Olivia Leray qui nous livrera ses express du jour. Bernard, que raconte David Fuenquinos dans Vers la beauté chez Gallimard?
Alors, je suis très embarrassé pour vous en parler, car votre livre, David Fuenquinos, repose sur une énigme, un secret, et que le violer serait criminel pour le lecteur. Alors, je ne vais vous raconter que le début. Antoine Duris, éminent professeur aux Beaux-Arts de Lyon, quitte tout du jour au lendemain, il monte à Paris et se fait embaucher comme un simple gardien au musée d'Orsay. Pourquoi ce choix étonnant d'une vie déclassée, solitaire, sacrifiée? Quel chagrin, quel drame ou quel crime fuit Antoine Duris? Un premier indice, Ténu, nous est donné page 64, et alors là, votre récit bascule, ne nous lâche plus, nous sidère, nous bouleverse. David Fuenquinos, et on n'en dira pas plus, hein, David Fuenquinos, d'où vient ce personnage énigmatique, oui. Antoine Duris?
Oui, c'est ça, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas les motivations, et il va se réfugier au musée d'Orsay en tant que gardien de salle, alors que c'est un professeur émérite aux Beaux-Arts à Lyon,
oui.
Et finalement, c'est quelqu'un qui, le sujet principal, c'est d'aller se réfugier dans la beauté, chacun cherche son propre chemin vers sa consolation, et lui, il a vécu, apparemment, on comprend assez vite, un drame ou quelque chose d'extrêmement douloureux, et il va aller s'apaiser d'une certaine manière en étant face au tableau de Modigliani dans cette salle du musée d'Orsay.
Le portrait de Jeanne et Buterne, qui est donc le dernier amour du peintre Modigliani. Pourquoi ce tableau-là? C'est aussi votre choix.
Mais oui, mais j'avais envie d'un visage, un visage féminin. Il y a quelque chose finalement chez cet homme-là qui s'extrait totalement du monde, et c'est assez difficile de tout quitter. Et finalement, la seule personne avec qui il va avoir une sorte de conversation quotidienne, c'est cette Jeanne Buterne. À part évidemment tous les touristes qui viennent sans cesse le perturber en lui demandant où est la Joconde de Leonardo DiCaprio ou toutes sortes.
Où sont les toilettes?
Oui, ce sont des vraies anecdotes. On lui demande, lui il a juste envie de s'extraire du monde et il passe son temps à expliquer où sont les toilettes.
Vous êtes mis en situation, vous êtes allé vous installer face au portrait vous-même?
Pas vraiment, en fait c'est assez étonnant, j'aime bien écrire sans vraiment, enfin je suis pas journaliste, je suis pas un enquêteur. Par exemple, il y a une grande partie de mon roman qui se passe à Lyon, oui. Et je connais très peu cette ville, et j'ai utilisé par exemple une galerie d'art qui s'appelle la galerie Klemouchka, j'y suis jamais allé, donc ils vont être surpris en découvrant le livre. J'aime bien, mon livre précédent se passait à Crozon en Bretagne, j'ai reçu d'ailleurs la médaille de la ville là-bas, j'y suis pas allé encore pour aller la chercher. J'aime bien finalement inventer des lieux réels.
En revanche, l'art et la peinture étaient déjà au cœur de votre roman Charlotte. Alors, d'où vient cette attirance chez vous?
C'est assez surprenant, parce que c'est vrai que j'ai rarement réécrit un livre qui ait une tonalité proche du précédent. Ce livre-là est animé vraiment par une sorte de continuité avec les thèmes qui traversaient la vie de Charlotte Salomon.
Oui.
Puisque là, on parle du professeur, mais il y a un autre personnage. Bernard ne veut pas dévoiler, il a raison, mais c'est vrai qu'il y a une jeune fille
au cœur
de ce livre qui a beaucoup d'écho avec la vie de Charlotte Salomon. Et le thème principal, c'est l'idée que justement la création, en tout cas l'exercice de la beauté, de la sensualité, peut cicatriser une douleur.
La puissance cicatrisante de la beauté, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, je trouve la formule admirable.
Oui, c'est vraiment le sujet principal du livre, et je me suis rendu compte aussi en l'écrivant à quel point cela avait des résonances personnelles. Moi, j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai passé des mois à l'hôpital. J'ai été opéré du cœur. Et c'est vrai que les livres m'ont sauvé d'une certaine manière. Et la culture, la beauté, la peinture, la musique, je me suis nourri finalement de toute cette sensualité. Et je me suis rendu compte en écrivant ce livre à quel point finalement je retransmettais toutes ces émotions personnelles.
Et alors, vous jouez un peu avec le lecteur, ou tout simplement vous êtes en train de tisser une œuvre, parce que dans ce roman, vous citez Charlotte Salomon. Salomon, à un moment donné. Il y a aussi toute une scène qui se passe à Nice, là où Charlotte Salomon s'était réfugiée. Là, il y a une forme de continuité.
Oui, ça, c'est parce que vous avez lu attentivement Charlotte, mais effectivement, il y a vraiment un écho très très fort, finalement, avec le destin de Charlotte Salomon.
On va marquer une première pause, David Fuenquinos, avant de continuer à parler de votre roman, mais aussi de la journée de la langue française. Je rappelle que Vers la beauté, votre dernier livre, paraît jeudi aux éditions Gallimard. À tout de suite.